Chers amis, chers frères et sœurs, voici le témoignage d'un jeune homme qui, fasciné par les philosophies en vogue, perdit la foi en Dieu. Et ce qui en résulta pour sa vie. Avant qu'il redécouvre miraculeusement le Seigneur et l'Évangile avec les effets que cela produisit. C'est le témoignage du Norvégien Rolf Wilström, et donc qui est absolument authentique. Son combat pour retrouver la foi en Dieu et la certitude des vérités bibliques, mise à mal par les courants philosophiques et le rationalisme dominant au cours de sa jeunesse, c'est celui de bien des jeunes et moins jeunes de nos jours. Le vieil homme rayonne d'une joie paisible que personne ni rien ne peut ébranler. Il tient entre ses mains un vieux livre usé par des années de lecture quotidienne, la Bible. Ses yeux parcourent les paroles qu'il connaît presque par cœur, mais qui lui parlent à nouveau chaque fois qu'il les lit et les médite. Parfois, son regard s'attarde sur un verset, à maintes reprises souligné. Son visage s'illumine alors, et dans un carnet posé sur la table, il prend quelques notes. En face de lui, à l'autre bout de la table, son fils, devant une pile de livres de philosophie, le regarde bouleversé. Quelques années auparavant, ce jeune homme partageait la foi de ses parents. L'existence de Dieu était aussi réelle, aussi naturelle pour lui que celle de son père, celle de sa mère. La Bible était aussi pour lui la parole de Dieu, la boussole pour diriger sa vie. Mais ce jour-là, face à son père, il ne peut que constater l'abîme qui les sépare désormais, l'étendue qui l'éloigne de sa foi d'enfant. Que s'est-il passé ? Rolf Wilström, ce jeune Norvégien, se souvient de la première fois que sa foi a été ébranlée. À l'école, confronté aux théories scientifiques en vogue dans cette première moitié du XXe siècle, il laisse le doute commencer à fissurer l'édifice de sa vie. L'engagement dans des mouvements politiques, sociaux à la mode parmi les étudiants en fait le reste. Il n'est pas rebelle, il aime ses parents, il les respecte profondément. Il trouve même que pour eux, la foi en Dieu est quelque chose de positif, quelque chose dont ils ont besoin et qu'il ne faut surtout pas leur enlever. Il est heureux pour eux. Mais lui se trouve maintenant dans un autre monde, un monde « éclairé » entre guillemets, un monde « entre guillemets encore » en route vers le progrès. Un monde où d'autres valeurs, d'autres conceptions construites sur la raison humaine remplacent les croyances, entre parenthèses, légendaires et obscurantistes du passé. Rolf est fasciné par ce nouveau monde. Il en fait partie intégralement. Il est parmi ceux qui le construisent. Et dans ce monde, il n'y a pas de place pour la religion. Dieu, la Bible, Satan sont arrangés parmi les concepts obsolètes du passé. Le plus tragique, c'est que la foi d'enfant de Rolf a été ébranlée de façon définitive au cours d'une leçon de religion chrétienne à l'école. Un cours dispensé par un théologien qui expliquait aux élèves les mythes, entre guillemets, qui entourent les récits bibliques sur Moïse, sur Jésus. Le cœur de Rolf battait très fort ce jour-là. Les affirmations du professeur ne correspondaient pas à ce qu'il a appris à la maison, à l'église qu'il fréquente. Dans sa naïveté d'enfant, mais avec courage, il lève la main et pose la question qui brûle sur son cœur. Mais est-ce qu'on ne doit pas croire comme c'est écrit dans la Bible ? Et le professeur lui répond, un sourire indulgent aux lèvres, « Bien sûr, mais on doit essayer de le comprendre avec sa raison, alors on comprend encore mieux. » La première réaction du garçon est de défendre la foi de ses parents. Pour lui, c'est impensable que ceux-ci, si heureux, si sereins, si inébranlables dans leurs convictions, aient pu bâtir sur un autre fondement que la vérité. Mais de façon insidieuse, l'esprit d'incrédulité du siècle prend racine dans son jeune cœur. Il commence à s'interroger sur les récits de miracles racontés dans les évangiles. C'est vrai qu'il n'a jamais lui-même vu quelqu'un marcher sur l'eau. Il n'a jamais vu quelqu'un ressusciter des morts. Ainsi commença pour moi, écrit-il plus tard dans sa biographie, des années de combat pour essayer de comprendre la Bible uniquement par ma raison et comprendre Dieu avec mon intellect, mon cerveau. Il se souvient d'une nuit d'hiver où, devant la beauté d'une forêt norvégienne enneigée, il se trouve le cœur vide, contemplant un univers vide, un univers où tout est matière, mais sans vie. Et de son cœur monte alors le cri d'un enfant qui a perdu son Père céleste. Pendant tout un temps, Rolf poursuit ses études de philosophie, de langues classiques et modernes. Ébloui par la culture occidentale, submergé par les idées du siècle qui prônent la libération de l'homme de toute l'influence de l'héritage judéo-chrétien. En même temps, il tente de combler le vide de son âme par l'engagement dans toutes sortes de groupes politiques et sociaux qui luttent pour plus de justice, la fin des privilèges, animé d'une vision utopiste d'un monde où tous les hommes vivraient en harmonie, un monde sans guerre. Mais souvent, là aussi, il doit reconnaître la vanité d'un tel combat, face à l'égoïsme qu'il constate chez les hommes, face aux échecs des grands philosophes qu'il a étudiés, face au mal qu'il voit aussi dans son propre cœur. Pourquoi, se demande-t-il, le grand philosophe allemand Nietzsche est-il devenu fou, se frappant la tête contre un mur, lui qui proclamait la victoire du « surhomme » entre guillemets. Pourquoi Rousseau, le père spirituel de la Révolution française, déposait-il ses enfants nouveau-nés sur les marches d'une église afin que des personnes miséricordieuses les accueillent pendant que lui-même écrivait des thèses sur la manière de trouver le bonheur familial et d'éduquer ses enfants? Ce qu'il enseignait à d'autres, il n'arrivait pas à le vivre lui-même. La famille heureuse n'existait que dans ses écrits. Et pourtant, quelle influence cet homme avait exercé sur des générations d'hommes et de femmes. Face à toutes ces contradictions entre les belles théories et la réalité vécue chez beaucoup de ceux qu'il avait pris pour modèle, Rolf, fatigué du combat, laisse parfois ses ouvrages sur la table pour aller rechercher un vieux livre abandonné dans sa bibliothèque. La Bible, le livre aimé de son père, le fondement de la vie de ses parents, de leur bonheur, de leur certitude. Au plus profond de son cœur, il ressent à nouveau le désir de retrouver sa foi d'enfant, la foi de ses pères. « Je voulais croire, dit-il, mais la porte de la foi m'était fermée et je n'avais pas la clé. » Esclave des philosophies de ce monde, esclave de l'athéisme ambiant de la société qui l'entoure, il ne peut que constater « j'avais été trompé, la vie m'avait trompé, cette vie du monde qui m'attirait tant avec ses charmes, ses séductions. » Il se met alors à lire la Bible à nouveau. Petit à petit, la foi renaît de ses cendres. D'abord, la foi en l'existence du Dieu créateur. Puis, après des mois de combat pour détruire en son cœur l'œuvre destructrice de l'athéisme, la foi en un Dieu proche, un Dieu qui accueille, qui sauve le pécheur repentant, un Dieu à qui l'on peut s'adresser par la prière, un Dieu qui a un plan d'amour pour chacun. Il redécouvre les vérités bibliques, les unes après les autres. Le chemin de l'obéissance, qui passe par la repentance, le baptême. Il est fiancé, en route vers le mariage. Sa fiancée partage sa recherche ardente. Le jour où il s'engage, chacun à un moment différent à suivre le Christ, en se faisant baptiser par immersion, est une étape décisive. Il ressent aussi la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Il redécouvre l'expérience des disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Mais sa raison fait alors à nouveau une objection. Il voit une différence entre l'expérience des disciples racontée dans le livre des Actes des Apôtres, où ceux-ci parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises, mais des langues que les auditeurs ce jour-là comprennent bien, et le parler en langue des chrétiens qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Il demande alors à Dieu de lui faire entendre à parler en langue authentique, dans une langue européenne qu'il peut comprendre. Il n'oublie jamais ce jour où, à l'église de Pentecôte d'Oslo, il se trouve à genoux au premier rang, implorant le Seigneur de le remplir du Saint-Esprit. Soudain, un jeune homme à côté de lui se met à louer Dieu en allemand. Rolf connaît bien cette langue, c'est une des langues qu'il enseigne. Et là, il entend des louanges à Dieu exprimées dans un allemand pur, sans faute, avec une prononciation parfaite. Il est bouleversé. Croyant que le jeune homme est allemand, il se penche vers lui pour lui poser la question. Celui-ci lui dit alors qu'il est un simple ouvrier norvégien, qu'il n'a même pas été au collège et qu'il n'a jamais appris un mot d'allemand. Puis soudain, ce jeune interpelle Rolf. « Lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, dit-il, j'ai demandé à Dieu de parler une langue européenne pour être utile à quelqu'un. Mais, ajoute-t-il, il y a une pierre sur ton chemin, un obstacle que tu dois enlever. » Bouleversé au plus profond de lui-même, Rolf rentre chez lui, convaincu qu'il a vécu là un authentique miracle. Ce soir-là, il sait que l'obstacle qui doit disparaître pour connaître la puissance du Saint-Esprit et une vie plus profonde avec Dieu, c'est le rationalisme, les restes de ce poison qui avait pénétré son cœur et qu'il avait pendant des années éloigné de Dieu. Et ce soir-là, s'ouvrant à la grâce de Dieu, s'abandonnant entre ses mains, il voit disparaître l'obstacle de l'incrédulité et il reçoit un puissant baptême dans le Saint-Esprit. Rolf Wilström devient par la suite un prédicateur de l'Évangile. Il est également l'auteur de plusieurs livres qui racontent son cheminement, qui invitent le lecteur à une vie de plénitude. Vers la fin de sa vie, il se trouve à nouveau dans cette belle forêt norvégienne, contemplant le ciel étoilé, heureux d'avoir retrouvé la foi de ses pères. « Je me sentais comme un brandon arraché au feu, dit-il. J'avais la certitude dans tout mon être d'être sauvé. Sauvé du paganisme sans aucune espérance. Sauvé d'une existence loin de Dieu. J'avais la certitude d'être de retour dans la foi simple, authentique de mes pères. Je voyais le monde, toute l'humanité et moi-même dans la perspective de l'éternité. Ma pensée avait quitté le chemin des ténèbres de la sagesse humaine. Elle avait retrouvé la lumière de Dieu. » Voilà, frères et sœurs, un beau témoignage de ce qui s'est accompli dans une vie qui est venue ou revenue au Seigneur. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole du Seigneur dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 18, où nous lirons ensemble à partir du verset 9, mais nous commencerons par prier. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous accordes encore. Nous te remercions pour ta parole vivante et véritable, par laquelle tu veux aussi accomplir une œuvre de salut en chacune et en chacun de nous. Tu veux nous faire également saisir la vie véritable, Seigneur, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et pour tous les autres, eh bien, tu les encourages aussi, Seigneur, à tenir bon et à s'attacher fermement à notre précieux Sauveur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Amen. Voilà, dans 2 Samuel, chapitre 18, nous lisons à partir du verset 9 et jusqu'au verset 15. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurais donné 10 sicles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 sicles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. » Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Ittaï. Prenez garde, chacun, au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Quel passage dramatique que celui que nous venons de lire, et ce qui ajoute encore à l'intensité du récit, c'est la façon étonnante dont Absalom a été livré sans défense entre les mains de ses adversaires. Il s'est trouvé pris par la tête, probablement par les cheveux, dans les branches emmêlées d'un grand térébinthe sur lequel il passait au galop de sa mule, et il s'est ainsi retrouvé pendu entre ciel et terre, à la merci de ceux contre lesquels il était allé combattre. Par 3 fois dans notre passage, il est question de térébinthe. Et aujourd'hui, avec le secours du Seigneur, nous voulons parler de différents térébinthes dans la parole de Dieu avec les événements cruciaux qui se sont déroulés au-dessous d'eux. Et ainsi, nous pourrons voir que le térébinthe, c'est pour nous l'arbre du souvenir, l'arbre qui nous aide à nous rappeler de certaines vérités divines capital qu'il nous faut garder dans nos cœurs et dans nos vies pour notre plus grand bien et notre plein salut. Voici donc là maintenant le térébinthe d'Absalom qui nous rappelle que notre péché nous atteindra. Nous parlerons ensuite du térébinthe de Jabès, le souvenir des causes de la malédiction, le térébinthe de Sichem, le souvenir de la bénédiction quand on abandonne les idoles, le térébinthe d'Ophra en quatrième, nous rappellera l'appel du Seigneur et sa réalité. Et puis, il sera question de la vallée des térébinthes, qui, elle, nous rappelle la victoire par la foi. Et puis vous avez ce fameux térébinthe entre Bethel et Juda qui nous fera nous souvenir de cette persévérance nécessaire au salut. Enfin, Dieu voulant, nous pourrons parler de cette colombe des térébinthes lointains qui nous appelle à nous souvenir du ciel et de sa gloire. En premier donc, ici, dans notre passage, le térébinthe d'Absalom, le souvenir que notre péché nous atteindra. Vous savez, rien ne paraissait pouvoir résister à Absalom. Il a eu tout un temps l'air d'arriver à accomplir toutes ses entreprises mauvaises. Il avait fait une conjuration contre le roi David, son père, son propre père. Et l'immense majorité du peuple d'Israël s'était mise de son côté. Il avait accompli toutes sortes de mauvaises actions. Le succès était toujours avec lui. Trois choses étaient en lui. La convoitise de la chair, voyant qu'il est allé vers les concubines de son père. La convoitise des yeux. Il avait tout fait pour soigner sa belle apparence et se mettre en valeur. Et l'orgueil de la vie, c'est la troisième chose. Ce qui s'était manifesté par cette ambition dévorante qu'il a fait vouloir s'emparer de la place de son père et qui lui avait fait se dresser à lui-même un monument, ce dont il est parlé dans 2 Samuel 18 et au verset 18. Mais voilà que d'un seul coup, les choses basculent. D'un coup, c'est la défaite pour lui et ses troupes et il est obligé de fuir. Il aurait dû se coucher sur l'encolure de sa mule pendant qu'elle courait dans les sous-bois et qu'il la cravachait à la recherche d'un abri. Mais voilà, vous savez, Absalom, c'est quelqu'un qui n'avait jamais appris à baisser la tête. Et c'est pour cela que sa tête a été prise ainsi que d'un coup, il s'est retrouvé suspendu entre ciel et terre. Nous ne savons pas combien de temps Absalom restait conscient dans la souffrance, parce que ça devait faire mal, et l'angoisse de son état. Peut-être s'est-il rappelé alors ce verset de la parole de Dieu qui dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Il était bien pendu au bois du térébinthe. En tout cas, quand Joab, son ennemi implacable à ce moment-là, après avoir été son allié pendant un temps, quand Joab donc arriva peu de temps après, il nous dit que le cœur d'Absalom était encore plein de vie. Verset 14. Trois javelots seront enfoncés dans son cœur. Et les 10 jeunes gens qui constituaient la garde de Joab l'achèveront. Ainsi finit d'une manière violente celui qui avait voulu user de violence pour s'élever. Et ces trois javelots correspondent, on peut les voir correspondant, au triple péché dont Absalom s'était rendu coupable et dont nous avons parlé plus haut. Et ces 10 jeunes gens correspondent aux 10 commandements qu'Absalom avait délibérément violés. Et le grand monceau de pierre qui va être mis sur lui fait pendant au monument qu'il s'était élevé. Nous ne savons pas si Absalom a eu le temps, l'occasion ou la possibilité de réaliser ces choses en tout ou en partie. Mais pour ce qui nous concerne, il est important que nous puissions le faire. Et que ce térébinthe soit pour tout homme l'occasion de se souvenir qu'un jour ou l'autre. Brusquement, le péché et ses conséquences atteindront celui qui s'y livre, même si le pécheur persévère tout un temps et avec un succès apparent dans ses entreprises. Le térébinthe d'Absalom est là. Absalom peut penser ou imaginer toutes sortes de choses dans sa tête, mais un jour, sa tête sera prise et c'est par là même qu'il sera perdu. Et combien il faut que nous puissions nous-mêmes courber la tête devant le Seigneur. Comme il faut que nous amenions toutes les pensées de cette tête captive à l'obéissance de Christ et de sa parole. Et c'est ainsi que nous serons gardés des 3 javelots, des 10 jeunes gens et de tous les jugements qui viennent sur ceux qui ne veulent faire que leur volonté et non la volonté de Dieu. Et puis notre texte suivant maintenant se trouve dans 1 Chronique chapitre 10 versets 11 à 14. 1 Chronique chapitre 10, versets 11 à 14. Et là, il est question du térébinthe de Jabès. Nous lisons cela. Tout Jabès en Galade ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité devant l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Et ceci nous rappelle que Saül avait été roi. Il avait été choisi par Dieu pour cela. Pendant un temps, il avait été celui que Dieu avait jugé le plus capable, le plus qualifié, le plus spirituel pour cette charge difficile de roi. Et il avait été petit à ses propres yeux. Et tant qu'il en a été ainsi, Dieu l'a béni. Mais malheureusement, quand il atteignit à la royauté, son cœur s'éleva pour le perdre. Ne voyant qu'ensuite, il agit avec présomption, allant même jusqu'à prendre la place de sacrificature du prophète Samuel. Après, nous le voyons qui refuse régulièrement de reconnaître ses torts, qui se justifie toujours, qui accuse les autres de ses propres fautes, les rendant responsables de ses propres péchés. Et il en est arrivé à persécuter ainsi des hommes plus justes et meilleurs que lui. Et c'est ainsi que le prophète va s'adresser à lui de la façon suivante. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est dans 1 Samuel 15 et au verset 23. Et vous savez, le prophète Samuel ne croyait hélas pas si bien dire quand il parlait de divination, de choses occultes dans ce passage. Parce qu'en effet, ça lui ira jusque-là. Puisqu'à un moment, l'Éternel l'abandonne à cause de son refus de se repentir, il va aller, lui, consulter une nécromancienne. Et le lendemain, du jour où il a fait cela, son châtiment final, définitif, s'opère. Et quelques jours plus tard, ses ossements, ainsi que ceux de ses fils, eux aussi victimes de la malédiction, seront sous le térébinthe qui est à Jabès en Galate. Que ce térébinthe soit pour nous comme un souvenir d'avertissement. Car que de personnes dans ce monde aujourd'hui qui se sont retrouvées plongées dans le malheur parce qu'elles s'étaient livrées aux choses occultes, parce qu'elles avaient consulté quelqu'un qui s'y livrait, spirit, astrologue, nécromancien et d'autres, magnétiseurs et d'autres encore. Que de personnes qui ainsi plongeaient leurs proches aussi dans le malheur, comme Saül l'a fait pour ses fils. Et c'est la raison pour laquelle, si souvent, on peut voir des drames en série dans des familles. Que de personnes qui sont ainsi atteintes parce qu'elles n'ont pas cherché le Seigneur, qu'elles n'ont pas voulu se soumettre à sa parole. Elles ont eu en elles un esprit de résistance à la volonté de Dieu et à la bonne parole du Seigneur. Et là encore, combien il est nécessaire de venir à Christ. En lui confessant notre péché sans retenue, sans justification, afin de pouvoir être délivré de ces maux et de leurs conséquences. Et puis, je poursuis maintenant avec le térébinthe de Sichem. Et là, nous allons dans la Genèse. Retournons au début de la Bible, chapitre 35, versets 1 à 5. Et voici un épisode majeur qui s'est produit pendant la vie de Jacob. La vie de Jacob, qui elle aussi n'a pas été toujours exemplaire. Nous lisons là, chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. » Voici donc encore un térébinthe qui est important parce que le contexte précédent nous rappelle que Jacob se trouvait devant de gros problèmes à cause de certaines actions excessives de la part de ses fils. Il risquait d'être massacré avec toute sa maison. Il se trouvait donc dans un grand danger dont il ne savait comment se tirer. Et s'il en était là, c'était aussi en bonne partie parce qu'il n'avait pas accompli son devoir envers Dieu. Car depuis longtemps, il aurait dû monter à Bethel, la maison de Dieu. Il en avait fait la promesse. Ceci afin d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Mais il avait préféré repousser cela plus tard. Il avait préféré mener son existence à sa guise et le voilà donc maintenant dans les problèmes. Vous savez, c'est une situation tellement répandue aujourd'hui que d'hommes qui se trouvent dans de grandes difficultés, pour toutes sortes de raisons, mais la principale, c'est qu'ils n'ont pas soumis leur vie au Seigneur et à sa parole. Et heureusement pour Jacob, la parole de Dieu justement va retentir. Et il va écouter cette parole et il va y obéir. Et une des premières choses qu'il fait, c'est d'enterrer ses idoles, ses faux dieux qu'il y a dans sa tente et dans les tentes de tous ceux qui sont avec lui. Et ensuite, il monte à Bethel pour obéir à l'ordre divin. Nous savons que Bethel veut dire « maison de Dieu ». Et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu commence à se répandre sur lui. Il nous est parlé de cette terreur de l'Éternel qui a empêché ses adversaires de le poursuivre. Le voici à l'abri, divinement protégé de tous ses ennemis. Dieu va pourvoir à ce problème, auparavant insoluble et inextricable. Et ça, c'est aussi un modèle pour tout homme. Parce que si vous vous abandonnez vos idoles, si vous vous en débarrassez, si vous les enterrez pour ne plus y revenir, c'est-à-dire toutes ces idoles, toutes ces choses que vous avez pu faire passer avant Dieu, avant les choses de Dieu, avant le royaume de Dieu dans vos vies, et qu'ensuite vous mettez à suivre le Seigneur, vous expérimenterez aussi la réponse de Dieu. Vous expérimenterez sa protection, sa délivrance et sa bénédiction. Dès ce moment, vous serez gardé et le Seigneur aura une solution pour toutes vos difficultés, quelles qu'elles puissent être. Puis maintenant, me voici dans le livre des Juges au chapitre 6. Là, vous avez une autre situation, une autre solution. Et ça se passe dans une période compliquée, là encore, avec Gédéon. Juges chapitre 6, et là nous lisons au verset 11, le térébinthe d'Ophra qui nous rappelle le souvenir de l'appel de Dieu. Juges chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian !» L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu, qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face !» Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Écriture nous dit que nul ne peut venir au Seigneur si Dieu, si le Père ne l'attire. Mais en même temps, elle nous rappelle que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est aussi pour cela qu'il est écrit que le Seigneur est à la recherche de ceux qui disposent bien leur cœur, afin de se révéler à eux et de leur faire du bien. Le salut vient donc de l'Éternel, Et en même temps, ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, mais s'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Ainsi en est-il pour l'appel de Dieu à un service particulier. Le Seigneur cherche ceux dont le cœur est bien disposé. C'est eux qu'il appelle, c'est à eux qu'il se révèle. Et notre texte, est le térébin de notre texte, est là pour nous en marquer souvenir. Il y aurait bien des choses à dire sur Gédéon. Mais relevons quelques-unes parmi les principales raisons qui ont fait que le Seigneur l'a appelé. Déjà, voici un homme qui se pose des questions quant au manque de bénédiction et de délivrance et qui cherche les raisons d'un tel état de fait. C'est ce qu'on a vu au verset 13. Cet homme aussi, tout en même temps, est conscient et pénétré de sa petitesse et de ses propres insuffisances, au verset 15. Et donc il est humble. Ça veut dire qu'il pourra d'autant plus facilement glorifier Dieu et ne pas s'enorgueillir. Et puis cet homme aussi cherche la grâce du Seigneur, c'est ce qu'on voit bien au verset 17, puisqu'il est pleinement conscient de sa propre indignité. Et puis une quatrième chose, voici un homme prêt, avant toute chose, à faire un sacrifice au Seigneur. Et pas essayer de voir quels sont les avantages qu'il pourrait tirer de la situation en premier, ce qu'on voit du verset 18 au verset 20. C'est un tel homme que Dieu va utiliser, avec lequel il va être, il promet d'être. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vraiment cela le plus important. Et ce térébinthe-là, sur lequel le Seigneur s'est tenu, est resté pour appeler Gédéon à ce travail de libération et de délivrance d'un puissant adversaire, nous rappelle le souvenir d'une bonne disposition de cœur devant Dieu, pour que le Seigneur puisse de même nous appeler à son salut et à son service. Soyons nous aussi de ceux qui cherchent les raisons, qui se posent les bonnes et justes questions. Soyons conscients de nos insuffisances propres. Cherchons la grâce de Dieu et ayons à cœur de lui offrir avant tout des sacrifices. Si je poursuis maintenant, je retrouve une toute autre situation dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21 et au verset 9. Et là, c'est carrément une vallée. C'est la vallée des Térébintes qui nous rappelle la victoire par la foi et comment elle s'opère. Nous lisons là au verset 9 du chapitre 21. Le sacrificateur répondit : voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit : il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Dans cette vallée, des Térébintes, il y avait au moins plusieurs Térébintes. Et au moment de cette victoire, c'est vrai qu'il était bon d'avoir là encore plusieurs témoins. Et même beaucoup de témoins pour en raviver le souvenir. Dieu donne la victoire à ceux qui ont foi en lui. Et même si l'adversaire, l'ennemi est semblable à un géant devant eux. Et là encore, si nous avions beaucoup de temps, il nous faudrait examiner quelles ont été les clés de cette victoire formidable de David sur Goliath. Relevons simplement les principales. Déjà, la pleine foi dans les promesses de la parole de Dieu. Et puis ensuite, le souci de la gloire de Dieu qui a été bafoué dans cette occasion-là. Et puis aussi le fait que David, de sa propre bouche, a confessé sa foi. Il a eu aussi, nous le voyons, par la foi, la vision de cette victoire que Dieu allait lui accorder. Et puis bien sûr, il y a eu le fait de rendre gloire entièrement et uniquement à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est entièrement un livre de foi. Tout ce qui y est contenu nous dit « Ayez foi en Dieu ». Quel que soit le géant qui est devant nous, il y a une victoire que Dieu veut nous donner sur lui. Quelle que soit la maladie ou la souffrance, il en est de même. Quels que soient nos problèmes, il est puissant pour les résoudre. L'Épître aux Hébreux nous parle de ceux qui ont obtenu toutes sortes de choses extraordinaires et nous explique que c'est uniquement par la foi. Voilà donc ce dont nous avons le plus grand besoin, et toute cette forêt de térébinthes nous rappelle aussi cela. Et puis notre sixième situation se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 13, à partir du verset 1er. C'est ce térébinthe qui se trouve là, se trouvait là, entre Bethel et Juda, et qui nous enseigne aussi une leçon absolument vitale, c'est-à-dire le souvenir de la persévérance qui est nécessaire jusqu'au bout. Sans lire ce texte qui sera un petit peu le plus long pour aujourd'hui, mais qui vaut la peine d'être parcouru. Voici un homme de Dieu, verset 1er, arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra à la maison de David un fils, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. » Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne !» Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais s'il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans la maison et il mangera du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait amené lui manger du pain et qui lui but de l'eau, il scella son âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion s'éteint à côté du cadavre. Voilà un récit qui est littéralement truffé de miracles. Et cet homme de Dieu a vu dans sa vie un tournant se produire et même un renversement de situation. Auparavant, il était envoyé par le Seigneur. Il avait obéi à la parole de Dieu. Il avait annoncé courageusement cette parole au risque de sa vie. Il est question de parole de Dieu, il est question d'homme de Dieu, c'est continuellement répété. Dieu avait fait des miracles merveilleux en sa faveur pour confirmer ce qu'il disait de sa part. Nous voyons qu'il avait résisté aux tentatives de séduction, même les plus éblouissantes, pas de compromission. Il avait marché dans la voie du Seigneur et tant qu'il en était ainsi, il a été béni et approuvé de lui. Jusqu'au moment où il est arrivé sous le térébinthe. Et là, il s'est assis. Puis quelque part, il a défait son armure spirituelle. Il s'est laissé aller, il n'a plus veillé. C'est compréhensible humainement. Mais spirituellement, non. C'est ainsi que l'a trouvé le vieux prophète, qui était en l'occurrence un faux prophète. Et au lieu de se raccrocher à cette parole de Dieu, qu'il avait pourtant éprouvée, qu'il savait être vrai, il en avait eu des preuves évidentes, solides, il a écouté ce faux message, plus facile, plus large, que lui apportait cet homme. Et ça a été le début de sa chute. Et finalement, sa mort dans le chemin, car le lion l'a tué. Quelle misère! Pour ne pas avoir veillé, ni persévéré dans la parole de Dieu. Quand Daniel a été dans la fosse au lion, ils n'ont rien pu lui faire. Dieu avait fermé leur gueule, car Daniel tenait ferme pour Dieu et sa parole. Mais quand un prophète, accomplissant des miracles de la part du Seigneur, est sorti de la voie de Dieu, le lion a eu des droits sur lui et a pu le tuer. Il faut avoir une foi ferme, mais ce qu'il faut surtout, c'est la garder jusqu'au bout. Rappelons-nous que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est marqué « Résistez-lui avec une foi ferme ». Et une foi ferme, c'est une foi persévérante, qui ne se laisse pas ébranler par toutes sortes de messages qui prétendent venir de Dieu, mais qui sont des mensonges. Que ce térébinthe qui a vu le demi-tour catastrophique de ce prophète soit pour nous un puissant appel de cette nécessité de persévérer jusqu'au bout dans la bonne voie qui nous est tracée sans compromission avec le péché et sans retour en arrière. Et voici notre dernier texte pour aujourd'hui, du moins, de notre dernière lecture dans le psaume 56, au verset 1er. Et là, nous lisons « Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains. » Colombe des térébintes lointains. C'était certainement une mélodie. Et ce psaume 56 devait être chanté sur la mélodie de ce chant dont le titre était « Colombe des térébintes lointains ». Et ça nous parle. Ça nous rappelle quelque chose que nous ne devons jamais oublier en tant que croyants. Le souvenir du ciel et de la gloire. C'est vrai qu'il y a des térébintes lointains qui sont aussi un souvenir pour nous. Il y a une colombe qui vient du lieu où ils sont. Et cette colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Puis il nous est écrit que les cieux s'ouvrirent, que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus sous la forme d'une colombe au moment de son baptême. Et ces térébintes lointains, d'où vient la colombe? Sont donc les témoins et les souvenirs pour nous des réalités et des gloires du ciel. Oui, voilà des térébintes qu'il ne faut pas oublier. Si nous avons reçu Christ, n'oublions pas que notre nom est inscrit dans les cieux. N'oublions pas les couronnes et récompenses célestes qui sont promises. N'oublions pas cette demeure céleste que le Seigneur Jésus nous prépare. Et pour venir y habiter, il viendra nous chercher. N'oublions pas cette Jérusalem céleste d'une gloire incommensurable qui nous est décrite à la fin de l'Apocalypse. N'oublions pas l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. N'oublions pas que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de là, et en particulier du Père qui est là. N'oublions pas cette multitude qui, dès à présent, loue Dieu comme un bruit de grandes eaux dans l'allégresse et l'enthousiasme de leur âme. N'oublions pas ces créatures célestes supérieures en gloire et en puissance. N'oublions pas cette promesse de notre transfiguration et de notre transformation à son image. N'oublions pas qu'un jour, nous pourrons connaître comme nous avons été connus. Nous pourrons aimer comme nous avons été aimés. Et par-dessus, n'oublions pas la présence de Christ, le bien-aimé, le roi de gloire sur son trône de gloire. Combien il sera bon de demeurer là et de se prosterner à ses pieds et de l'adorer. Que nous puissions nous rappeler toujours de ces térébintes lointains. Dieu veut faire de chacun de nous des térébintes, des témoins, des souvenirs, des bonnes choses, des choses glorieuses. Dans Ésaïe 61, verset 3, il est marqué « Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Si je reprends ce qui est contenu dans ce passage, on les appellera. Ça veut dire qu'ils seront connus. Ils auront ce témoignage. Des térébintes de la justice. La justice du Seigneur qui mène à une vie à la gloire de Dieu, à marcher dans le chemin de la justice. Il est parlé d'eux comme d'une plantation. Ça veut dire qu'ils sont plantés, ils sont enracinés par Dieu dans sa parole et dans sa volonté. Et puis la plantation nous rappelle aussi qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qu'ils font partie d'un ensemble qui est planté par Dieu, une assemblée plantée par Dieu, tous plantés comme eux. Et puis c'est une plantation de l'Éternel parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Pour servir, est-il dit. Oui, c'est vrai, il nous faut une utilité, un service pour le Seigneur. C'est aussi ce que le Seigneur veut pour chacun, que nous puissions porter ce fruit à sa gloire. À sa gloire, c'est d'ailleurs ce qui conclut ce passage, pour servir à sa gloire. Le but final de tout vrai croyant, que le Seigneur soit glorifié par sa vie tout entière, esprit, âme et corps. Voulez-vous vous confier au Seigneur pour qu'il fasse toute cette œuvre en vous? Amen. Eh bien, nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et ta bonté. Nous te remercions pour le souvenir de ces choses précieuses, importantes et solennelles en même temps. Et nous te remercions parce que justement, tu veux nous aider à ne pas oublier cela. Tu veux nous aider aussi à bien tenir compte de l'appel qui nous est ainsi adressé. Et merci, Seigneur, pour la manière dont tu nous prépares aussi ainsi pour ta gloire. Sois béni, sois loué pour toute bonne œuvre que tu accomplis en faveur de chacun de ces bien-aimés qui sont à l'écoute de cette prédication. Sois glorifié, mon Dieu, dans leur vie. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je me permets de vous rappeler le WhatsApp de dimanche matin pour partager les sujets de louange et d'action de grâce que nous avons certainement les uns et les autres. Et puis, bien sûr, il y a aussi la prédication qui doit être aussi dimanche, la prédication du culte. Je voudrais simplement dire que quelques travaux et imprévus de dernière minute nous obligent à repousser d'une semaine notre projet de reprise de la réunion du mercredi soir. Donc ce ne sera pas le 10, en fait, mais le 17 à 20h15 que nous aurons la joie d'accueillir les frères et sœurs qui le pourront pour ces moments de communion fraternelle qui sont tant attendus. Alors comme vous avez probablement pu en prendre connaissance déjà, il faudra s'adapter aux nouvelles mesures, assez contraignantes mais nécessaires, même si bien sûr nous espérons qu'elles soient passagères. Et après, Dieu voulant, on pourra passer à l'étape du culte un peu plus tard. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie en lui. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.